Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je suis content de vous voir et je vous transmets les salutations des frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle de Besançon. Je m'appelle Habib. Donc voilà, je suis originaire du Tchad, en Afrique centrale, ceux qui connaissent. Et je vis depuis un bon moment maintenant à Besançon, où je participe aux membres de l'Église de la Bonne Nouvelle. Et ce matin, c'est la troisième fois que je me réunis avec vous. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc je vous salue, vous qui êtes dans la salle. Je ne sais pas ceux qui sont à distance, s'ils arrivent à nous voir. Mais en tout cas, voilà, soyez tous bénis et je vais remettre ce temps dans la prière. Notre Dieu, merci pour la grâce de pouvoir être en vie, Seigneur, et pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir nous approcher ensemble de toi pour écouter ta parole. Père Céleste, nous voulons te demander avant toute chose de disposer nos cœurs, Seigneur, et nos pensées à être à l'écoute de ta voix, Seigneur, à être réceptif à ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit au moyen de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce moment et glorifie-toi par ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier message d'une série de trois prédications sur le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Ce chapitre 9, comme pour ceux qui étaient là précédemment, relate le récit de la guérison miraculeuse d'un aveugle de naissance. Un aveugle de naissance et par Jésus-Christ. Et ce chapitre est très riche en enseignements. Donc même en trois prédications, il y a des choses qu'on n'a pas forcément le temps de voir. C'est pourquoi je vous encourage vraiment dans la semaine à prendre le temps de relire le passage et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va parler à votre cœur et va se glorifier dans votre vie. Mais aujourd'hui, pour cette prédication, on va s'intéresser uniquement à la dernière partie du chapitre 9. Et pour vous situer un peu le contexte, pour ceux qui prennent en route le message, ce chapitre. Donc un jour, Jésus, il marchait avec ses disciples dans la rue, et en passant, Jésus aperçoit en chemin un mendiant aveugle de naissance. Et les disciples, ils ont commencé à interroger Jésus pour savoir, mais pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'était parce que lui ou ses parents avaient commis un péché? Et Jésus leur répondit non, ce n'est pas parce que lui ou ses parents ont commis une faute qu'il est né aveugle. Mais il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et Jésus s'est ensuite approché de cet homme aveugle de naissance. Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, il lui a appliqué sur les yeux. Puis il lui a dit d'aller se laver les yeux au bassin de Siloé. Et lorsqu'il s'est lavé les yeux, miraculeusement, ses yeux se sont ouverts. Et donc tout son entourage de cet homme aveugle de naissance qui a été guéri, tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris de le voir se promener les yeux ouverts et les gens se demandaient, mais est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui mendiait au coin de la rue? Comment ça se fait qu'il voit maintenant? Et donc ce miracle de guérison a étonné beaucoup de monde. Et bien sûr, les rumeurs ont circulé dans la communauté, l'histoire est arrivée jusqu'aux oreilles des chefs religieux, des chefs de la communauté qu'on appelait les pharisiens. Et une partie des pharisiens n'était pas du tout content d'entendre ce récit de guérison parce que Jésus avait guéri notamment un jour de sabbat. Un jour de sabbat, or chez les juifs, le sabbat c'est un jour sacré. Ou c'est un jour pendant lequel il est interdit, il n'est pas permis de faire un quelconque travail. Et pour vérifier les faits, donc les pharisiens ils convoquent une première fois l'aveugle guéri pour l'interroger sur ce qui s'est passé. Et donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et là les pharisiens, dans notre passage d'aujourd'hui, les pharisiens ils décident de le convoquer pour un deuxième interrogatoire. Ils veulent encore l'interroger pour vérifier qu'il s'agit bien... Ils vont convoquer aussi les parents de l'aveugle guéri et pour vérifier qu'il s'agit bien de lui, qu'il était vraiment aveugle à sa naissance et pour leur demander aussi des explications. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a été guéri? Mais il faut savoir quoi, là, que les pharisiens suscitaient parfois des craintes parce qu'ils avaient une certaine autorité dans la communauté et les parents avaient peur des pharisiens. Les parents de l'enfant avaient peur des pharisiens et ils avaient peur notamment de se faire exclure de la synagogue et d'être discriminés au sein de la communauté. Donc les parents ont bien reconnu que l'homme guéri correspondait à leur enfant, qu'il était bien né aveugle, mais ils ont expliqué aux chefs religieux qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas comment est-ce qu'il a fait pour retrouver la vue. Et donc, ils vont encourager les pharisiens, bah, écoutez, interrogez-le lui-même, interrogez-le directement. Et donc, les pharisiens vont l'appeler pour un deuxième interrogatoire. Et c'est là que commence notre passage. Donc, on va... l'intitulé du message aujourd'hui, c'est « Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde afin qu'il y ait un jugement ». Ça, c'est vraiment l'élément final de tout le chapitre. Je vous disais, il y a beaucoup d'enseignements, mais c'est vraiment cette notion de jugement. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde afin qu'il y ait un jugement. Mais le premier événement auquel on va s'intéresser, c'est lorsque les pharisiens interrogent une deuxième fois l'aveugle guéri, et on va lire ensemble le passage de Jean chapitre 9, versets 24 à 34. Donc je vais lire. Donc les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Et nous allons voir à travers ce passage que les œuvres de Jésus révèlent qu'il vient de Dieu, qu'il honore Dieu et qu'il accomplit sa volonté. Les œuvres de Jésus dans la vie de cet homme, dans la vie des êtres humains, révèlent qu'il vient de Dieu, qu'il honore Dieu et accomplit sa volonté. Nous allons d'abord nous intéresser, d'abord voir du point de vue des pharisiens, les chefs religieux. Donc à l'époque de Jésus, il existait différents groupes politiques et religieux dont faisaient partie les pharisiens. Et donc les pharisiens constituaient un groupe de juifs religieux qui prêchaient une obéissance stricte à la loi et aux traditions juives. Donc, ils respectaient la loi et ils croyaient en la résurrection des morts. Et ils étaient décidés à obéir à la volonté de Dieu. Mais ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie. Ils ne voulaient pas le reconnaître comme le Messie parce que Jésus ne suivait pas leur tradition religieuse. Et d'ailleurs, lors de ce nouvel échange entre les pharisiens et l'aveugle guéri, les pharisiens veulent pousser l'aveugle guéri à attribuer sa guérison à Dieu et non à Jésus, qu'ils considèrent comme un pécheur parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Et donc, l'aveugle guéri, il refuse d'affirmer ce que lui demandent les pharisiens. Il leur répond en leur témoignant simplement les faits importants liés à sa situation. Avant, il était aveugle, et maintenant, il voit. Et les pharisiens poursuivent leur interrogatoire. Ils poursuivent leur interrogatoire et lui redemandent une deuxième fois ce que Jésus lui a fait pour lui rendre la vue. Ils veulent savoir comment est-ce que Jésus a procédé pour réaliser ce miracle. Il faut savoir aussi que précédemment, donc ça on l'avait vu la dernière fois, qu'au verset 15, lors du premier interrogatoire, les pharisiens lui avaient déjà demandé comment il avait fait pour retrouver la vue. Et l'aveugle guéri leur avait déjà expliqué. Il leur avait répondu simplement en décrivant le déroulé des faits. Jésus lui a appliqué de la boue sur les yeux. Il s'est ensuite lavé les yeux au bassin de Siloé. Et maintenant, il voit. Et donc, l'aveugle guéri... On peut passer à la diapo suivante. Et donc, l'aveugle guéri répond aux pharisiens qu'il leur a déjà expliqué ce qui s'est passé. Mais ils ne l'ont pas écouté. Et donc cette fois-ci, c'est l'aveugle guéri qui va leur poser deux questions. Il va les interroger tout d'abord, pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il leur répète à nouveau son témoignage de guérison? Et est-ce qu'eux aussi, ils veulent devenir des disciples de Jésus? Et donc l'aveugle guéri leur pose ces questions parce qu'ils cherchent à comprendre quelles sont les intentions des pharisiens derrière leurs questions répétitives sur son témoignage. Qu'est-ce qu'ils cherchent à lui faire dire? Et donc face à ces questions... Les pharisiens réagissent violemment. la réaction charnelle, réaction humaine. Ils réagissent violemment et tout d'abord les pharisiens, ils insultent l'aveugle guéri, puis ils lui disent que c'est lui qui est le disciple de Jésus. Eux, ils se considèrent plutôt comme disciples de Moïse. Donc il faut savoir que les chefs religieux et même les juifs en général mettent beaucoup leur espérance en Moïse. Moïse est une figure importante de la foi, de la tradition des juifs. Et c'est un prophète important à qui Dieu avait remis notamment les 10 commandements. Donc souvent on associe Moïse à l'alliance mosaïque, l'alliance de l'Ancien Testament. Et donc on ne sait pas ce qui pousse les pharisiens à réagir avec autant d'agressivité dans leurs propos. Est-ce que c'est dû parce que c'est dû à un attachement excessif à leur tradition ? Est-ce que c'est dû à des préjugés ? Est-ce qu'ils ont des préjugés ? Ou est-ce que ça peut être dû à de l'orgueil ? Moi, je pense plus sur cette troisième option, sur la notion, l'aspect orgueil. Je pense que c'est l'orgueil qui les rend aveugles et qui les pousse à réagir avec une telle animosité. Mais avant, je me suis posé d'abord la question, mais c'est quoi l'orgueil ? Qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? On entend souvent parler. Et l'orgueil, ça peut se définir comme un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est un sentiment de fierté, d'amour propre, qui est très fort, très marqué. Et donc, les pharisiens qui étaient des chefs religieux, ils se disaient être des croyants, pieux, qui détenaient le savoir. Ils détenaient le savoir, ils avaient une connaissance pointue de la loi. Ils connaissaient la parole de Dieu. Et c'était des théologiens, en fait. C'était presque des théologiens. Et ils avaient aussi une fonction de juge qui veillait à une application stricte de leurs règles religieuses. Et ils ont établi plein de règles de vie. À partir d'une interprétation extrême, parfois erronée de la parole de Dieu. Et donc, dans ce passage, on peut voir aussi une mise en garde contre l'orgueil qui rend aveugle, l'orgueil qui nous empêche de voir réellement la volonté de Dieu. Pour vous prendre un exemple, pour prendre l'exemple du sabbat juif, le sabbat juif, on en avait beaucoup parlé la dernière fois, c'est le jour de repos hebdomadaire des Juifs. Il s'agit d'un des 10 commandements reçus de Dieu par Moïse sur le mont Sinaï. Et à partir de ce commandement, les pharisiens ont établi toute une longue liste de choses qu'on ne doit pas faire ce jour-là. Et donc, pétrir de la boue et guérir un malade, c'était considéré par eux comme un travail. Comme un travail, et donc, c'est interdit le jour du sabbat. Or, à travers ce miracle de guérison, Jésus, lui, ce qu'il cherchait, c'était, il voulait montrer qu'aux yeux de Dieu, c'est important, c'est juste de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, même si ça implique un certain travail le jour du repos. Et le fait que Jésus ne respecte pas cette règle en effectuant quand même une guérison miraculeuse le jour du sabbat, Jésus faisait souvent des miracles le jour du sabbat, pour taquiner un peu les pharisiens, une partie des pharisiens rejette Jésus et tout ce qu'il fait. Ils vont jusqu'à le considérer comme un pécheur qui ne vient pas de Dieu. Et donc, l'orgueil est un véritable danger. C'est un véritable danger dans la vie de l'être humain. Et parfois, un peu comme les pharisiens, on peut être tenté de penser qu'on sait tout de Dieu, qu'on sait déjà tout de Dieu et qu'on n'a plus besoin d'apprendre de Jésus. Et parfois, j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays, côtoyer différentes cultures et communautés chrétiennes, et j'ai parfois rencontré certaines personnes qui se disent croyants, qui affirmaient « Je connais tout des religions ». Je connais tout déjà de Dieu, j'ai lu la Bible des dizaines de fois, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Ou encore, j'ai déjà lu la Torah, le Coran, la Bible, ou je sais déjà tout de Dieu. Et le danger de cet orgueil, de penser qu'on sait déjà tout, c'est que parfois cela nous pousse à établir des règles de vie qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande. Et de imposer aux autres, sans en avoir conscience, du mal que ça peut faire. Et malheureusement, l'être humain ne se rend même pas compte que cet orgueil le rend aveugle. Et à tel point que, même lorsqu'on vient lui exposer devant ses yeux des témoignages ou des preuves vivantes de l'œuvre de Dieu, à cause de cet orgueil, cette personne n'arrive pas, refuse de voir la vérité, refuse de voir, de croire en Christ, et elle s'endurcit. Et l'orgueil, c'est très dangereux, c'est vraiment très dangereux, ça peut détruire des vies entières, ça peut détruire des familles, même des églises, ça crée des divisions terribles. Maintenant, nous allons passer du point de vue de l'aveugle guéri. Donc, on revient à notre dialogue entre l'aveugle guéri et les pharisiens. L'aveugle guéri, il est surpris que ces pharisiens, qui souvent prétendent tout savoir de Dieu, connaissent la parole de Dieu, qu'ils ignorent en fait l'origine de Jésus. Et ils ne savent pas d'où Jésus vient. Et pourtant, face à leur ignorance, L'aveugle guéri leur affirme un fait réel, que c'est bien Jésus qui lui a ouvert les yeux et donc qui a opéré ce miracle. Et l'aveugle guéri est sincère. Il va, même face à l'attitude de rejet des pharisiens, il va défendre sa foi en Jésus en argumentant sur la base de ce qu'il sait. Simplement sur ce qu'il sait et sur ce qu'il a vécu. Et à l'époque, la piété juive, en fait, affirmait que Dieu exauce les prières des justes, seulement les justes, et qu'il rejette les prières des méchants. On va passer à la diapositive suivante. Et donc, il y a plusieurs passages de la Bible qui affirment ça, qui affirment que Dieu exauce seulement les justes et qu'il rejette les prières des méchants. Dans les passages des psaumes, versets 34 à 16 à 19, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Proverbe 15, 29 dit « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Et donc, il y a différents passages dans la Bible qui affirment ça. Que oui, Dieu exauce les justes et il rejette la prière des méchants. Et donc, l'aveugle guéri, il est sincère. Il veut apporter une explication de ce qu'il croit, et donc il donne son opinion. Il partage son opinion avec les pharisiens. Il affirme que Dieu n'exauce pas les pécheurs, et c'est l'argument principal qu'il va défendre face aux pharisiens. Et il va le défendre à travers un raisonnement en trois points. D'abord, il va affirmer que Dieu exauce les personnes qui l'honorent et qui font sa volonté. Et ensuite, il fait le constat qu'un miracle extraordinaire a été accompli. Il en est la preuve vivante. Il était né aveugle, et maintenant il voit. Et le troisième point, il conclut son raisonnement en affirmant que Jésus, l'homme qui a accompli ce miracle, est donc un homme de Dieu. Strictement parlant, l'aveugle guéri avait raison. En effet, il y a la relation entre le fait d'être juste et l'exaucement est souvent soulignée dans la parole de Dieu. Mais c'est important de bien garder à l'esprit aussi que d'une part, ce raisonnement aussi, il s'agit de l'opinion personnelle de l'aveugle guéri, et d'autre part, Dieu est souverain, c'est un Dieu de grâce. Il exauce qui il veut. Et le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils avaient une compréhension bien différente de ce qu'est un péché. Ces chefs religieux, ils raisonnaient autrement. Pour une partie d'entre eux, quelqu'un qui ne respectait pas les règles, les traditions religieuses selon leur propre interprétation de la loi, était un pécheur. Et donc, Dieu ne peut pas exaucer ce genre de personne. Jésus vient de Dieu, il honore Dieu, il accomplit sa volonté. Jésus vient de Dieu, il honore Dieu et il accomplit sa volonté. Et c'est ce que défend l'aveugle guéri au travers de son témoignage de vie. Lorsqu'on se retrouve face à des personnes qui sont parfois endurcies, aveuglées par leur orgueil, pensant tout savoir de Dieu ou qui remettent en question notre foi en Dieu, n'ayons pas peur de leur témoigner simplement les faits. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Leur décrire simplement les faits. Ce que vous avez vécu avec Christ. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses à toutes les questions dans la Bible pour pouvoir témoigner de Jésus autour de nous. Il suffit simplement de dire fidèlement qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie. Et on peut faire confiance à Dieu, il est capable d'utiliser même nos paroles, peu importe les réactions des autres, pour toucher les cœurs. Mais c'est important d'avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. C'est important d'avoir une relation intime avec Dieu pour que notre témoignage puisse vraiment refléter ce que Dieu fait dans notre vie. Et donc, c'est un appel à témoigner. C'est vraiment un appel à témoigner. Et on va voir que, touchés dans leur orgueil, les pharisiens vont encore réagir avec agressivité et par du mépris envers l'aveugle guéri. Ils vont le chasser, ils vont jusqu'à le chasser. Et les pharisiens, qui pensaient tout savoir et être dans la vérité, mais en réalité, en fait, leur attitude et leur réaction face à l'aveugle guéri montrent qu'ils n'ont pas compris, qu'ils sont ignorants, qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu, qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu, qu'ils sont encore ignorants et aveugles sur beaucoup de choses. Et je vous propose maintenant de passer à un deuxième événement. C'est lorsque Jésus se révèle à l'aveugle guéri. Jésus va se révéler à l'aveugle guéri et nous allons ouvrir. On va continuer à lire le passage de Jean 9, versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Jésus va à la rencontre de l'aveugle guéri et lui demande, « Est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu ? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu ?» En d'autres termes, est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu as la foi ? Et l'aveugle guéri demande à Jésus de lui indiquer, « Mais qui est le Fils de Dieu ?» afin qu'il puisse placer sa foi en lui. Et Jésus se révèle alors personnellement à cet aveugle guéri en affirmant que c'est lui le Fils de Dieu. C'est Jésus le Fils de Dieu. Et l'aveugle guéri, il va répondre à la question de Jésus, il va répondre à l'appel que Jésus lui lance en déclarant qu'il croit en lui, qu'il a la foi. Il le confesse, il le croit dans son cœur et il le confesse de sa bouche. Et ensuite, il se prosterne devant Jésus en signe de respect et d'adoration. L'homme guéri a retrouvé la vue non seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue spirituel. Et Jésus se révèle personnellement à lui et l'aveugle guéri prend alors conscience de l'identité réelle de Jésus, en qui il reconnaît d'abord un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, puis son Seigneur, le Fils de Dieu devant lequel il se prosterne et en qui il croit. Et donc lorsqu'on se tourne sincèrement vers Jésus-Christ, on commence à le voir d'une autre manière, d'une manière particulière. Plus on côtoie Jésus, plus on passe du temps dans sa présence, plus on découvre qui il est réellement. Et on va voir par la suite que, à travers ce passage, Jésus se révèle personnellement à chacun, en tant que Fils de Dieu. Et il nous lance à tous un appel à placer notre foi, notre confiance en lui. C'est un appel à la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez pris une décision personnelle par rapport à Jésus ? Dans ce récit, on apprend que Jésus se révèle personnellement à chacun en tant que Fils de Dieu et il nous lance à tous un appel à placer notre foi en lui. Et à un moment donné de notre vie, c'est important de se positionner sur cette question, car c'est une décision qui est urgente. Vous et moi, on ne peut pas changer notre passé. On ne peut pas changer les erreurs qu'on a pu faire par le passé. Mais par contre, on peut agir sur le futur en décidant aujourd'hui de placer notre foi en Jésus. Jésus, lui, peut changer notre passé parce qu'il est mort sur la croix, il a pris nos péchés et il est ressuscité, de sorte que toutes les fautes ou les erreurs que nous avons pu commettre nous soient pardonnées en Dieu. Et c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde alors qu'on ne mérite pas. Je vous propose d'aborder un troisième et dernier événement qui est le point culminant de ce passage. Il y a beaucoup d'enseignements, mais c'est la partie la plus importante du chapitre. Ce sur quoi Jésus veut déboucher au travers de tout ce récit. On va aborder cette notion d'aveuglement spirituel et on va lire la dernière partie des versets 39 à 41. Dans les trois derniers versets. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. » Nous allons voir à travers ce passage que le jugement pour lequel Jésus est venu, le jugement pour lequel Jésus est venu dans le monde concerne deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par le jugement de Dieu. Pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. On va passer à la diapositive suivante. Jésus, il finit de s'adresser à l'aveugle guéri, et les pharisiens l'entendent. Les pharisiens étaient autour. Donc ils entendaient Jésus parler, et dans son discours, Jésus affirme qu'il est venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu. Et Jésus explique deux aspects de ce jugement. Pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et les pharisiens, comme ils entendaient Jésus, ils entendaient la conversation de Jésus avec l'aveugle guéri, ils se sont sentis visés, ils ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est d'eux qui parlent ? Est-ce que c'est eux qui considèrent comme aveugles ? Et Jésus va répondre à leur question en deux temps.
On va passer à la diapo suivante.
Jésus va d'abord leur dire que si vous étiez de vrais aveugles, vous ne seriez pas coupables. Vous n'auriez pas de péché si vous étiez réellement aveugle. Mais comme vous vous prétendez que vous voyez, comme vous prétendez, comme vous êtes entêté et convaincu que vous avez raison malgré vos erreurs, par conséquent, votre péché reste. Et donc vous êtes coupable aux yeux de Dieu. Et on va voir que Jésus affirme qu'il est, il est venu dans le monde pour qu'il y ait un jugement, mais c'est important d'avoir conscience aussi que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et c'est aussi important d'avoir conscience, et c'est vrai que c'était aussi une question à laquelle je luttais lorsque je venais de tout juste de me convertir, c'était est-ce que tout le monde va aller au paradis? Est-ce que tout le monde va être sauvé? Et la Bible dit que non, Jésus ne sauve pas automatiquement tout le monde. C'est une réalité, et c'est une réalité que j'ai observée aussi avec auprès de personnes qui se disent croyantes, qui doutent, qui ont du mal à accepter qu'il y ait un seul chemin pour aller à Dieu. Mais Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il va y avoir un jugement, et que tout le monde ne sera pas sauvé automatiquement. Seuls ceux qui placent leur confiance en lui reçoivent la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36. Ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus sont déjà jugés, c'est-à-dire condamnés. Ils passeront l'éternité loin de Dieu. Mais c'est important d'avoir conscience aussi, et c'est aussi un témoignage que j'essaie de partager avec ces personnes qui luttent avec ce questionnement, c'est Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il tend la main. Mais après, chacun a le choix de choisir, de saisir sa main ou pas. On va s'intéresser ensemble à cette notion de jugement, qui est très importante et dont Jésus parle. Donc, ce jugement pour lequel Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde, concerne deux catégories de personnes. Pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. On va s'intéresser à chaque catégorie pour bien comprendre de qui il s'agit et en quoi consiste ce jugement dont Jésus parle. On va d'abord s'intéresser pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Qui sont-ils et en quoi consiste ce jugement? Ce sont ceux qui ont l'humilité de reconnaître leurs péchés. Jésus peut leur venir en aide et leur ouvrir les yeux sur le plan spirituel. Ce sont ceux qui se savent pécheurs, qui ont conscience d'être séparés de Dieu, mais qui croient que Jésus est capable de les sauver. Ce sont ceux qui ont réellement le désir de changer d'attitude et de comportement pour être en relation avec Dieu, mais ils ne savent pas comment y parvenir. Jésus leur tend sa main pour les secourir et leur ouvrir spirituellement les yeux. Et nous l'avons vu, Dieu est capable d'opérer des miracles dans la vie des êtres humains. Dieu est capable d'opérer des miracles physiques, sur le plan physique, comme par exemple la guérison des yeux, rendre la vue à un aveugle. Mais sur le plan spirituel, Dieu, à travers l'action du Saint-Esprit, il est capable d'ouvrir les yeux d'un être humain, les yeux du cœur d'un être humain, de sorte que cette personne prenne conscience de son état de péché, qu'elle s'en repente et qu'elle choisisse elle-même de placer sa foi, sa confiance en Jésus, recevant ainsi le pardon de Dieu et la vie éternelle. On va s'intéresser maintenant à la deuxième catégorie, pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux-là, ce sont ceux qui prétendent tout savoir de Dieu et rejettent Jésus et ses enseignements. Ce sont ceux qui sont entêtés, orgueilleux et qui sont convaincus d'avoir raison, refusant de se repentir, rejetant toute forme de repentance. Et leur endurcissement volontaire les enfonce davantage dans un aveuglement spirituel. L'orgueil rend aveugle. Et ces personnes ne sont plus capables de voir leurs péchés. Vous pouvez leur témoigner, de plein de miracles. Vous pouvez leur montrer des versets de la Bible, mais elles sont tellement endurcies qu'elles n'arrivent pas à voir. C'est comme s'il y avait un voile devant leurs yeux. Et ça entraîne leur culpabilité aux yeux de Dieu. Et cette culpabilité, c'est comme une rébellion contre Dieu. Lorsqu'on rejette Jésus, c'est comme si on lui disait « Va-t'en, je ne veux pas, tu me dis ce que je dois faire dans ma vie, laisse-moi vivre comme je l'entends. » Et le châtiment que Dieu inflige aux rebelles, à ceux qui veulent être indépendants de lui, s'éloigner de lui, c'est qu'ils se coupent d'eux définitivement. Et être séparé de Dieu signifie la mort et l'enfer. Le châtiment de Dieu est éternel. Et il est terrible de tomber sous la sentence du jugement de Dieu. J'ai conscience que dans la Bible, il y a des vérités spirituelles qui parfois sont parfois difficiles à cerner selon le stade où on en est dans notre foi. Et hier, j'ai eu une discussion très profonde avec d'autres personnes, dont une personne notamment qui vient juste de se convertir et qui se pose beaucoup de questions, qui croit en Dieu, mais qui a du mal avec cette question d'éternité, qui lutte avec cette idée de vie après la mort. Et pourtant, il croit en Dieu, il croit en Jésus. Et face à ces personnes, ce que l'on peut faire, c'est prier pour elles. Continuer d'intercéder Dieu pour que Dieu ouvre leurs yeux. Continuer d'encourager ces personnes à lire la parole de Dieu. Moi, je crois que la parole de Dieu nous sauve, elle nous transforme, elle nous fait grandir dans notre foi. Il y a plein de choses que je ne savais pas quand j'étais converti. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas lorsque je me suis converti par rapport au salut, par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Il y a des choses que je ne comprenais pas par rapport à Pâques. Et ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai tout su. Mais chaque jour, j'apprends. Il y a encore plein de choses que je ne sais pas et que je vais continuer d'apprendre avec l'aide de Dieu. Mais j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de demander à Dieu, « Seigneur, éclaire-moi, ouvre mes yeux, aide-moi à te connaître davantage chaque jour. Parle-moi à travers ta parole. » Romains 6, 23 dit, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Hébreux 9, 27 nous dit, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Et cet enseignement de Jésus sur l'aveuglement spirituel est aussi une mise en garde pour nous qui disons être croyants, pour nous qui sommes considérants comme chrétiens. C'est une mise en garde parce que parfois on peut penser qu'on sait tout de Dieu. Soit parce qu'on a lu ou étudié la Bible, soit parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, soit parce que ça fait un bon nombre d'années qu'on s'est converti, ou soit parce qu'on a vécu beaucoup d'expériences miraculeuses avec Dieu. Mais Jésus nous met en garde contre le risque de tomber dans un aveuglement spirituel. Si nous connaissons la parole de Dieu, mais que nous ne la mettons pas en pratique, ou que nous choisissons seulement ce qui nous arrange selon les circonstances, nous risquons d'être aveugles par rapport à notre propre péché. Et la parole de Dieu est une lumière qui éclaire. Elle doit faire figure d'autorité dans notre vie. Et on doit la mettre en pratique, sinon on sera aveugle comme ces pharisiens. Vous avez dit, ces pharisiens, c'est des gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient parfaitement la loi. Et dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul blâme le comportement. Il blâme le comportement de certains croyants qui se disaient pieux et religieux. Je vais lire le passage suivant dans Romains 2, versets 16 à 23. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. Paul affirme que si nous ne vivons pas conformément à ce que nous savons de la parole de Dieu, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, si nous ne pratiquons pas ce que nous avons appris de la parole de Dieu, nous ne sommes pas différents des non-croyants. Par conséquent, nous subirons le jugement de Dieu. Et ce passage, c'est un appel vraiment à une écoute sincère de Dieu, à une écoute continuelle de Dieu, une écoute particulière de Dieu qui nous amène à nous repentir. On est en Christ, mais on a des faiblesses, on n'est pas parfait, on a parfois des chutes. Et lorsqu'on prend conscience qu'on a faibli, qu'on a chuté, on peut venir auprès de Dieu et demander pardon, saisir la grâce de Dieu pour se relever et continuer d'avancer avec lui. Les pharisiens avaient tendance à réduire Dieu à leur tradition, à leur schéma de pensée. Ils avaient tendance à réduire Dieu à une conception humaine de la religion. Et parfois, nous également, on peut être tenté de vouloir mettre Dieu dans une boîte, de le réduire à notre façon humaine de voir les situations ou même de voir les personnes. Mais ça ne marche pas comme ça. À travers ce miracle, cette guérison miraculeuse de l'aveugle-né, on retient qu'il est important de s'auto-examiner avec sincérité, à la lumière de la parole de Dieu. Et Jésus nous lance à chacun un appel à se repentir et à placer notre foi en lui. Cet enseignement sur l'aveuglement spirituel doit nous ramener vraiment à une écoute sincère de Dieu dans la prière et à travers sa parole. Oui, on peut demander à Dieu, peu importe notre nombre d'années dans la foi, on peut demander à Dieu, par la prière, de nous aider à redécouvrir chaque jour sa parole avec une fraîcheur. On peut lui demander, Seigneur, apprends-moi à me laisser interpeller par toi, par ta parole. Apprends-moi à me laisser interpeller par toi tous les jours dans ma vie, dans mes relations, dans mon attitude vis-à-vis de ma famille, de mes amis, de mes collègues, mes voisins. Jésus est le Fils de Dieu et il est venu dans le monde afin qu'il y ait un jugement, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Les quatre principaux points à retenir de ce message, c'est l'orgueil rend aveugle. L'orgueil rend aveugle et c'est un danger. Et c'est une tentation auquel on peut être tous confrontés. Lorsqu'on pense tout savoir de Dieu, ça nous rend insensibles aux œuvres de Dieu dans notre vie et autour de nous. C'est aussi un appel à témoigner. De ne pas avoir peur de témoigner des faits de ce que Jésus a fait dans votre vie, simplement en dire ce que Jésus a fait. On n'a pas besoin d'avoir une longue formation biblique pour dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Dieu est capable d'utiliser notre témoignage pour toucher nos proches, pour se glorifier dans nos situations, dans nos épreuves du quotidien. Peu importe les réactions des autres. C'est un appel à avoir la foi en Jésus. Jésus se révèle personnellement à chacun d'entre nous, en tant que Fils de Dieu. Et Jésus nous appelle à lui faire confiance pour notre salut éternel. C'est aussi un appel à une écoute sincère de Dieu dans la prière et à travers sa parole, et à se repentir si nécessaire. Je vais conclure par la prière. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu es venu à nous, Seigneur, alors que nous étions pécheurs loin de toi, séparés de Dieu. Tu t'es révélé personnellement à nous, Seigneur. Et tu as accepté, Seigneur, à Pâques, de prendre sur toi tous nos péchés. Tu as accepté de t'humilier, de te rabaisser, de souffrir, Seigneur, pour que nous puissions être pardonnés. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous, mais pour le monde entier, Seigneur. Pour nos familles, pour nos proches, pour nos amis, même pour ceux qui nous détestent, tu as donné ta vie par amour pour le monde, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir du prix, du sacrifice que tu as payé pour nous. Et nous voulons chaque jour, Seigneur, te demander de nous aider, Seigneur, à tenir ferme, à nous rester connectés à toi, à être humble, à nous laisser, Seigneur, transformer par toi. Brise en nous, dans nos vies, toute forme d'orgueil. Délivre-nous de toute forme d'aveuglement spirituel, Seigneur. Et éclaire notre intelligence, renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que nous continuions de grandir dans ton amour et dans ta grâce. Merci, Père, de bénir mes frères et sœurs ici présents et ceux qui nous suivent à distance. Merci, Père, de les fortifier, Seigneur, et de les renouveler chaque jour qui passe. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen.